Vous écoutez bien RFI, il est 13h en temps universel, 15h à Paris et à Rome. Et notre édition spéciale consacrée au décès du pape François se poursuit. Nous nous retrouvons dans quelques minutes. Le décès du pape François à la une aussi, évidemment, de votre journal, Gilles Moreau.
Oui, Anne, la nouvelle est tombée officiellement un peu avant 9h, heure de Rome, ce lundi de Pâques. Le communiqué du Vatican précise que ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. François avait 88 ans et son pontificat aura duré 12 ans. En 2013, il avait succédé à Benoît XVI, qui lui avait démissionné. Le chef de l'Église catholique disparaît un mois après sa sortie de l'hôpital. Il était resté hospitalisé pendant 38 jours pour une grave pneumonie. Les dernières images en public resteront celles de son apparition hier devant la foule rassemblée pour fêter Pâques, place Saint-Pierre de Rome. Il était apparu très fatigué et presque inaudible. Également lors de sa rencontre de seulement quelques minutes avec le vice-président américain J.D. Vance. Actuellement, les fidèles qui ont appris la nouvelle sont amassés sur cette même place Saint-Pierre de Rome où vous trouvez Eric Sénanc avec, on imagine, beaucoup de tristesse et de recueillement.
Oui, depuis ce matin, les fidèles et les touristes ici à Rome se recueillent. Je viens de croiser plusieurs femmes italiennes qui sont venues prier quelques minutes dans l'église de la Traspontina sur la grande avenue qui mène à la place Saint-Pierre, donc tout près du Vatican. Le flux des touristes ici continue. Le week-end pascal est l'un des plus chargés de l'année ici à Rome et les groupes se succèdent sur cette place Saint-Pierre pour entrer dans la basilique dont le balcon est encore recouvert du rideau rouge de la célébration de Pâques ici. La place qui est aussi pleine des couleurs, des milliers de fleurs de la célébration pascale hier. Tout à l'heure, juste après-midi, on a pu entendre le glas de Saint-Pierre sonner et marquer le deuil. J'ai rencontré aussi deux fidèles de Porto Rico qui n'ont pu voir le pape hier quand il a fait son tour en papa mobile, mais qui étaient très émus. C'est un père que j'ai perdu, m'a confié l'une d'entre elles, le premier pape latino-américain. La vacance du siège apostolique, elle, se prépare. La mise en bière du souverain pontife, on l'a appris, aura lieu ce soir à 20h dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, là où François a résidé durant les 12 années de son pontificat. Avant cela, à 19h30, tous les fidèles sont invités à prier le chapelet dans la basilique pour le repos de l'âme du pape défunt.
Merci Eric Sénanc en direct de la place Saint-Pierre de Rome. La constitution du Vatican prévoit un délai de 15 à 20 jours pour organiser le conclave. Et c'est lors de ce conclave que les cardinaux électeurs auront la tâche d'élire le successeur de François. Entre-temps, c'est un cardinal irlandais, Mgr Kevin Farrell, qui assure l'intérim. Les services de presse du Vatican viennent de l'indiquer. Le pape est décédé chez lui, dans ses appartements. Et les causes de sa mort seront rendues publiques peut-être dès ce soir. Sachez aussi qu'à Paris, les cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris ont sonné 88 fois, 88 comme l'âge de François. Direction maintenant la vieille ville de Jérusalem où se sont rendus pour Pâques des chrétiens venus du monde entier. Ce matin, l'émotion était vive à l'annonce de la mort du pape. Parmi ses visiteurs, Claire, une Française qui gardera le souvenir d'un pape courageux. Elle est au micro d'Abla Junaïti.
On est très touchés, mais je pense que c'est une libération. Et je pense qu'ils l'ont soutenu en le mettant sous assistance respiratoire. Et bah, il ne pouvait plus rien faire. Et c'est bien, il est mort juste avec Pâques. Il a accompli sa mission. Il a eu un travail difficile. Il a fait une œuvre considérable, je pense. D'abord, quand il a été élu pape, il a dit « la fête est finie ». Et il a discipliné tous ses cardinaux. Et puis, il a eu à lutter contre tous les drames et les dérives du christianisme. Vous savez très bien, la pédophilie, les laisser-aller, etc.
Claire, une Française en visite à Jérusalem. Les réactions des dirigeants maintenant de l'Iran à l'Allemagne, en passant par Israël, la France, le Liban, ou bien encore l'autorité palestinienne. Les dirigeants du monde entier rendent un hommage unanime à François. En Argentine, son pays d'origine, le président Milei, président ultralibéral, salue sa bonté, sa sagesse, malgré, je le cite, des différences entre eux qui aujourd'hui paraissent mineures. Allons maintenant au Brésil, le grand voisin de l'Argentine. Avec nous, Martin Bernard, en direct de Sao Paulo. Quelles sont, Martin, les réactions au Brésil, qui, on le rappelle, abrite la plus grande population catholique au monde ?
Ben justement, le pape était argentin, vous l'avez dit, était argentin, mais les Brésiliens ont très tôt adopté le souverain pontife. François avait d'ailleurs choisi Rio pour son premier voyage à l'étranger lors des Journées mondiales de la jeunesse. C'était il y a 12 ans. Il avait même plaisanté à cette occasion. Il avait dit « le pape est argentin, mais Dieu est brésilien ». Le président Lula vient de réagir. Il a souligné, je cite, que l'Argentin Georges Bergoglio a cherché inlassablement à apporter de l'amour là où il y avait de la haine. Car le pape François n'a pas hésité à aborder les questions sociales dans un pays marqué par les inégalités. Il a ainsi célébré la mondialisation de l'espérance qui doit remplacer, dit-il, la mondialisation de l'exclusion et de l'indifférence. Il a aussi tenu des propos plus politiques après la tentative de coup d'État contre Lula en 2023, en affirmant que la polarisation politique ne contribue pas à résoudre les problèmes urgents des citoyens.
Martin Bernard, en direct de Sao Paulo. J'ajoute à propos du Brésil toujours que pour le président Lula, eh bien, François aura porté avec courage et empathie la cause du climat. Voilà pour le Brésil. Ailleurs dans le monde, les hommages sont unanimes. Tour d'horizon avec vous, Yelena Tomic.
Oui, les messages affluent des quatre coins du monde. En Espagne, le roi Felipe VI a rendu hommage au courage et au réconfort que le pape apportait aux plus pauvres. Le pays va d'ailleurs décréter 3 jours de deuil national, tout comme le Portugal. Tandis qu'en Argentine, d'où est originaire le pape, le pays observera 7 jours de deuil. Ailleurs en Amérique latine, le président vénézuélien Maduro a salué un chef spirituel réformateur. Son homologue cubain a dit regretter profondément la mort de l'inoubliable pape François. Proche des Cubains, de nombreux dirigeants africains du Sénégal, de Zambie, du Nigeria ou encore d'Afrique du Sud ont salué la compassion de François. L'Union africaine a rendu hommage à un avocat inébranlable de la paix. Les messages de sympathie en mémoire du souverain pontife sont également parvenus du Proche et du Moyen-Orient, d'Israël, de Palestine, d'Irak, d'Iran et du Liban, d'Asie aussi. Le Dalai Lama a exprimé depuis son exil en Inde sa tristesse, saluant la dévotion et la simplicité du pape. Repose en paix, que Dieu bénisse le pape et tous ceux qui l'ont aimé, a déclaré le président américain Donald Trump. Enfin, le chef de l'ONU a rendu hommage à un messager d'espoir, d'humilité et d'humanité.
Yelena Tomic, merci. Dans le reste de l'actualité, en bref cette fois, la Russie a repris ses frappes en Ukraine au terme de la très fragile trêve de Pâques décrétée par Vladimir Poutine. Trêve que les deux camps se sont mutuellement accusés d'avoir violée. Moscou déclare avoir mené des frappes sur des cibles militaires dans 74 endroits en Ukraine, précisément. Puis parallèlement, Washington pense qu'un accord est possible dans la semaine entre les deux pays. Enfin, Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte, département français de l'océan Indien, encore très marqué par le passage dévastateur du cyclone Chido. C'était au mois de décembre. Le chef de l'État doit faire le point sur la reconstruction et il présentera un plan de refondation pour ce département le plus pauvre de France. Mayotte, première étape d'une tournée de 5 jours dans l'océan Indien. Elle conduira aussi le président français à La Réunion, autre département français, ainsi qu'à Madagascar et à Maurice. Il est 15h08 ici à Paris. Après la mort du pape, l'édition spéciale continue sur RFI avec vous, Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau. Le pape François décédé donc à 88 ans, une prière a eu lieu en milieu de journée dans la basilique Saint-Pierre à Rome, où il avait tenu à faire une apparition au balcon hier à l'occasion des célébrations de Pâques pour les catholiques. Aujourd'hui, de très nombreux messages de condoléances et d'hommages affluent du monde entier, à commencer bien sûr par l'Argentine, le pays du pape François. Et nous sommes en direct avec notre correspondant. Bonjour Théo Conscience.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes devant la cathédrale de Buenos Aires. Beaucoup d'émotions chez les personnes que vous avez rencontrées et qui viennent spontanément se recueillir.
Oui, oui, ce matin, beaucoup de visages fermés, des yeux rouges et humides ici devant la cathédrale métropolitaine sur la place de Mai. L'archevêque de Buenos Aires a célébré une messe ce matin à 8h30 en hommage au pape François, une messe qui est désormais finie, mais les gens continuent à venir ici pour se recueillir. Beaucoup de personnes qui se sont réveillées ce matin avec la nouvelle du décès de François et qui ont senti ce besoin de venir se recueillir ici avant d'aller travailler. Beaucoup de jeunes aussi, l'un d'entre eux me disait à l'instant voilà, qu'il avait choisi de ne pas aller en cours ce matin. Il m'a aussi dit cette phrase qui revient chez beaucoup de gens ici. Il m'a dit « Aujourd'hui, c'est pas seulement un pape que l'on perd, c'est le meilleur d'entre nous, c'est l'Argentin le plus important de l'histoire. » Donc aujourd'hui, les Argentins ont perdu l'un des leurs. Ils ont perdu quelqu'un en qui ils pouvaient se reconnaître, un homme simple, accessible, un fan de football aussi, puisque le pape était fan du club de San Lorenzo dans le quartier de Flores à Buenos Aires, son quartier natal, où d'autres cérémonies sont prévues aujourd'hui et certainement aussi dans les jours qui viennent, puisque le président argentin Javier Milei a décrété un deuil national de 7 jours.
Théo Conscience en direct de Buenos Aires. C'est toute la presse argentine, bien sûr, qui rend hommage au pape François. Vous avez lu les journaux pour nous, Juliette Chénion, et tous rappellent qu'il était le premier pape latino-américain.
Oui, François, le simple pape du bout du monde qui a brisé les codes et ouvert l'église comme cela n'avait jamais été fait avant, titre La Nation. Le journal rend hommage avec des dizaines d'articles à ce premier pape latino-américain. La Nation rappelle aussi les 7 voyages du pape François sur le continent, de la première visite au Brésil à la dernière au Panama en 2019, en passant par Cuba en 2015. Le pape avait annoncé plusieurs fois son intention de revenir en Argentine sans la concrétiser. D'après un expert interrogé dans le journal argentin La Nation, le pape craignait en fait une instrumentalisation politique de sa venue. Le pape François et l'Argentine auront eu une relation complexe et contaminée par la politique, résume La Nation. De son côté, Parina Dossé pointe les combats du pape François contre les guerres, pour l'écologie et en faveur des pauvres.
Et les journaux argentins n'oublient pas l'histoire d'amour entre le pape et le foot, on l'évoquait à l'instant.
Oui, Clarine en particulier revient sur cette ferveur du pape pour le club de San Lorenzo à Buenos Aires. Le pape François, qui avait grandi dans le quartier de Flores, vivait tout près du stade où il était abonné lorsqu'il était petit. Plus tard, durant son pontificat, il avait rencontré, raconte le journal Clarine, Maradona et Messi, mais aussi le Brésilien Pelé, le souverain pontife qui acceptait d'appeler Messi Dieu, titre dans la même le journal péruvien El Comercio.
Juliette Chénion, vous restez avec nous. On va vous retrouver dans quelques minutes pour poursuivre cet aperçu de ce que dit la presse sur le continent américain. Avant ça, je vous propose d'écouter une réaction, celle de Pepe Di Paola, curé du quartier pauvre Villa 21 de Buenos Aires. Pour lui, l'héritage du pape François est très important.
Certaines de ces idées sont traditionnelles dans l'Église, mais elles avaient été mises de côté et le pape les a remises sur la table. Des idées comme l'évangélisation, l'engagement de l'Église pour les pauvres, l'unité des chrétiens, la protection de l'environnement. Ce sont des choses que Bergoglio, ou le pape François, a remis sur la table.
Et nous accueillons maintenant notre invité, Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour.
Bonjour.
Le pape François était une personnalité controversée en partie. Son rôle pendant la dictature argentine, notamment, avait fait l'objet de controverses. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces années ?
Il y avait deux raisons pour lesquelles il était assez controversé comme archevêque ou comme responsable des jésuites pendant la dictature militaire argentine. C'est un demi-silence, disons, pendant la dictature qui lui a été reproché notamment par le prix Nobel de la paix argentin Esquivel. Et d'autre part, sur son attitude sur les lois sociétales adoptées à l'époque des présidents Nestor et Cristina Kirchner. Il avait combattu de façon extrêmement active et publique les lois sur la reconnaissance du mariage homosexuel et les propositions de les projets de loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
Il avait eu une position très, très conservatrice. Est-ce que le fait d'être argentin a eu une incidence, selon vous, sur son pontificat ? Est-ce que ça a mené à des prises de position différentes de celles de ses prédécesseurs ?
Sur ces questions, je ne suis pas un spécialiste, un vaticaniste, mais sur ces questions, effectivement, il est apparu comme un pape tout à fait dans la ligne de ses prédécesseurs. Les aspects sur lesquels il a été plutôt novateur, c'est à partir d'ailleurs du choix de son nom, François, c'est son positionnement en faveur des pauvres, en faveur de ce qui constitue d'ailleurs les pauvres constituant la réserve de l'Église catholique, d'abord en Amérique latine. Hein, son premier voyage a été un voyage brésilien, et l'un des derniers saints qu'il a fait reconnaître par l'Église catholique est un médecin des pauvres vénézuélien, Don Gregorio Hernández. Et au-delà, donc il aura été le pape qui a ouvert l'Église catholique sur l'Afrique, l'Asie, l'océan Indien. Donc il a été non seulement le premier pape latino-américain, mais le premier pape non-européen, et c'est un rôle qu'il a effectivement assumé, ce qui n'empêche pas qu'effectivement il est sur les questions, il soit resté grosso modo, parce qu'il y a eu quelques gestes en faveur des personnes homosexuelles, et il soit resté sur les questions sociétales de tout à fait conforme aux positions traditionnelles de l'Église catholique.
Vous nous parliez de son intérêt pour un certain nombre de régions du monde qui avaient pu être délaissées à certains moments. Est-ce qu'il s'est particulièrement impliqué en Amérique latine, par exemple ?
Oui, il a voyagé beaucoup de pays d'Amérique latine.
Vous avez mentionné le Brésil ?
Le Brésil, le Mexique... la Colombie, donc il a le Chili, il a donc tout au long de son pontificat eu une attention particulière sur l'Amérique latine. Il a visité beaucoup de pays, à l'exception du sien d'ailleurs, à l'exception de l'Argentine, en dépit du fait que le président actuel ait décrété des journées de deuil national. On sait que ses relations avec le président Milei n'étaient pas très bonnes. Javier Milei avait eu des propos d'ailleurs assez virulents à l'égard du pape François.
Et est-ce que vous pensez, comme l'écrit le journal La Nation, qui a été cité il y a quelques instants, qu'une visite aurait pu être instrumentalisée par la politique ?
C'est ce qu'il craignait, je pense. Bon, il y avait d'autre part un élément qui sans doute a été important pour lui. Si je suis argentin, tout le monde pense que je vais aller en Argentine. Ma priorité, c'est de sortir. Je ne suis plus l'archevêque de Buenos Aires. Je suis le responsable de tous les catholiques d'Amérique latine et au-delà des catholiques du monde, disons, du monde périphérique. Hein. Les pays développés, c'était vraiment pas vraiment la priorité de ses priorités. Mais sans doute qu'il avait envisagé à un moment ou un autre quand même de visiter son pays, mais l'élection du président Milei en 2023 avait remis en cause probablement ce projet qu'il avait sans doute d'aller revoir son pays avant la fin de son pontificat.
Jean-Jacques Courlianski, restez en ligne. On va jeter un dernier coup d'œil à la presse avec vous, Juliette Chénion, puisque les journaux saluent un pape réformiste qui a marqué le changement dans l'Église, avec, il faut le souligner, quelques frictions du côté des États-Unis.
Oui, tout à fait. Le New York Times raconte comment le pape François a dû composer, voire affronter, des leaders catholiques conservateurs défiants et illustre tout cela avec une photo du cardinal Raymond Burke. Les États-Unis, en pleine bataille culturelle et politique sur l'avortement et d'autres questions sociales, étaient un bastion de cette opposition conservatrice, note le journal new-yorkais, qui rappelle que le pape avait nommé dans plusieurs villes américaines des figures pour promouvoir la vision plus accueillante et ouverte du pape François, tout en rétrogradant certains évêques ou cardinaux critiques du Vatican, sans que cela change fondamentalement l'orientation de l'Église catholique américaine, qui reste conservatrice et très engagée dans les débats sur l'avortement, la sexualité et le genre aux États-Unis, analyse le New York Times.
Le pape qui a rencontré le vice-président américain J.D. Vance hier, donc juste avant sa mort.
Oui, le pape avait gardé un emploi du temps chargé jusqu'à la veille de sa mort, souligne le New York Times. Affaibli en chaise roulante, le pape avait rencontré J.D. Vance hier avant d'apparaître au balcon de la place Saint-Pierre. Un échange furtif de vœux de Pâques après que le pape François avait critiqué quelques mois plus tôt la politique migratoire agressive de l'administration Trump, souligne le Washington Post.
Et nous sommes en direct avec notre correspondante aux États-Unis, Karine Auton. Le vice-président a donc été reçu brièvement par le pape hier. Dernière occasion pour François de faire passer son message de tolérance en faveur des personnes migrantes. On a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, un peu plus tôt au cours de notre édition spéciale. L'accueil des migrants, c'était une question très chère au souverain pontife et sur laquelle il s'opposait totalement au président américain et à son administration.
Oui, c'était même devenu une joute à répétition, hein, puisque le pape François n'hésitait pas à critiquer régulièrement les décisions de l'administration Trump sur le sujet, lors de son premier mandat, comme lors de ce second. Il lui avait même laissé entendre ce qu'il attendait de lui dès son investiture en janvier, en l'espérant inspiré par les idéaux de votre nation, qui est une terre d'accueil pour tous. En février, lorsque Washington avait annoncé des expulsions massives de migrants, le souverain pontife avait averti que l'expulsion forcée de personnes au seul motif de leur statut illégal les prive de leur dignité intrinsèque et finira mal. Et assez exceptionnellement, il avait écrit aux évêques américains en visant directement la défense du programme d'expulsion par le vice-président pour des raisons théologiques. D'ailleurs, ce week-end, J.D. Vance n'a pu rencontrer le pape qu'après s'être entretenu sur le sujet avec le secrétaire d'État et le chef de la diplomatie du Vatican. Le vice-président a tout de même dit que cela ne ferait pas infléchir son opinion. Sans compter qu'il a manqué l'adresse pascale qui a été lue de la part du pape François hier, qui se plaignait du mépris parfois suscité envers les personnes vulnérables, les marginalisés et les migrants. Donc le message passait bien du côté du Vatican. En tout cas, dans les médias conservateurs américains, ici, c'est un bras de fer qui est, lui, largement passé sous silence.
Karine Auton, en direct de New York. Jean-Jacques Kurlianski, est-ce que ça vous surprend que le pape ait consacré du temps au vice-président américain alors qu'il était extrêmement affaibli et qu'on laissait donc en désaccord profond sur notamment la question de l'immigration ?
Bien, le pape est également un chef d'État, donc il doit recevoir, pour des raisons diplomatiques évidentes, ses visiteurs étrangers, quels qu'ils soient, et d'autre part, il s'est beaucoup attaché autour, pendant son pontificat, à la défense d'un certain nombre de causes, la recherche de la paix. Bon, en Amérique latine, avec le cardinal Paolin, qui avait des nonces apostoliques au Venezuela, donc il a essayé de jouer un rôle de sinon de médiateur, du moins de facilitateur, de résoudre le conflit interne du Venezuela et la difficulté des rapports du Venezuela avec les États-Unis. D'autre part, c'est comme vient de le dire votre correspondante sur les dossiers, sur les questions migratoires et non pas sur les questions sociétales, qu'il avait un désaccord avec le gouvernement des États-Unis lorsqu'il s'était rendu au Mexique. C'était un voyage couplé, autant que je me rappelle, Mexique-États-Unis, et il s'était rendu sur la frontière, sur le mur, pour voir un petit peu cette situation difficile sur la frontière nord du Mexique, frontière sud des États-Unis. Il avait adressé déjà un message important sur ces questions migratoires. Donc le vice-président des États-Unis, qui plus est, s'est converti au catholicisme il y a quelques années, ayant souhaité, selon les modalités qui sont celles les siennes et celles de la présidence Trump, prendre les devants et aller dans des lieux qui intéresse beaucoup les États-Unis, et manifestement le Vatican est l'un de ceux-là. Donc le pape ne pouvait que le recevoir, ce qu'il a fait en dépit de son état de santé.
Et donc de cette relation très difficile avec la nouvelle administration, qui ne se limite pas du tout à la question de l'immigration.
Non, les positions du moins de ce pape. On verra bien ce qui se passe avec son successeur. Et avec le président Trump et le vice-président Vance, sont effectivement totalement contradictoires.
Alors le pape François s'était mobilisé dans la région à de nombreuses reprises. Il avait œuvré par exemple au rapprochement entre les États-Unis et Cuba par exemple. Est-ce que ça c'est quelque chose qui était inédit de la part d'un souverain pontife, et pourquoi est-ce que ça comptait pour lui ?
Non, le rapprochement avait déjà été, à l'époque de Jean-Paul II, hein, c'est lui qui avait ouvert la voie à une reconnaissance mutuelle déjà entre le Vatican et Cuba, et entre Cuba et éventuellement les États-Unis, bien qu'aujourd'hui cette question de Cuba ne soit pas vraiment la priorité des priorités pour le président Trump. Il y a eu tout un travail qui a été effectué par le Vatican depuis Jean-Paul II, qui a été vraiment le pionnier. Mais effectivement, le pape qui vient de décéder, le pape François, avait fait une visite extrêmement importante à Cuba en vue de poursuivre et d'approfondir ce qui avait été effectué par son prédécesseur.
D'ailleurs, le pape François est salué aujourd'hui par le président cubain qui rappelle, dit-il, la proximité chaleureuse qu'il avait avec le peuple cubain. On parle là d'un héritage qui est salué, vanté aujourd'hui. François n'avait pas toujours tenu des propos qui ont été approuvés sur le continent. Le 18 janvier 2018, par exemple, il avait défendu avec véhémence Juan Barros, un évêque particulièrement décrié au Chili, et soupçonné d'avoir couvert des actes pédocriminels d'un prêtre. Je vous propose d'écouter ce qu'il avait dit à ce moment-là.
Le jour où vous m'apportez une preuve contre l'évêque Barros, je me prononcerai. Il n'y a pas une seule preuve contre lui. Tout cela est calomnie, c'est clair.
Des propos qui sont assez durs, assez éloignés aussi d'un certain nombre de déclarations qu'on a entendues de la part du pape François et qui avaient beaucoup choqué au Chili, Jean-Jacques Kourlianski.
Oui, bon, ça c'est un dossier qui est un dossier compliqué pour le Vatican, non seulement en Amérique latine, mais ailleurs, en France, hein, notamment. Il y avait eu les affaires à l'archevêché de Lyon, donc aujourd'hui il y en a d'autres. Le Chili, il avait quand même convoqué l'ensemble de l'épiscopat chilien au Vatican pour essayer de remettre de l'ordre dans l'église du Chili. Ces affaires de pédophilie au Chili, d'ailleurs, ont porté un coup à la pratique religieuse, par les catholiques du Chili, ce qui explique que le pape ait été, malgré tout, contraint de réagir. Mais
c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il reste quelque chose encore de ces déclarations?
Bon, c'est un dossier en poupée russe, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement du Chili, mais il s'agit de tous les dossiers de ce type, au Chili, en Bolivie, en France, en Espagne. Ça a été une espèce de phénomène en domino qui a heurté tout le travail que faisait le pape en faveur des plus pauvres, en faveur des migrants, et qui l'a contraint à revenir sur des dossiers sociétaux qui sont évidemment des dossiers sur lesquels il est beaucoup moins à l'aise.
Alors, au cours de son pontificat, le pape s'était aussi exprimé sur le rôle de l'Église dans la colonisation. Il avait demandé pardon aux peuples indigènes. Il avait aussi reconnu le rôle de l'Église dans les crimes de l'esclavage. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été reçu d'une manière particulière sur le continent américain ?
Oui, cela dit, concernant les excuses qu'il a présentées, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador en 2021 lui a quand même un petit peu forcé la main quand il a exigé en parallèle à l'occasion de cinquième centenaire de la prise de Tenochtitlan par Hernán Cortés, des excuses de la part de l'Église catholique et des excuses de la part du roi d'Espagne. Alors il a effectivement reçu des excuses de la part du pape. Il n'a pas reçu d'excuses de la part du roi d'Espagne, ce qui constitue encore un cactus dans les relations entre... On sort du sujet, mais comme le problème a été lié dans l'esprit des Mexicains, mais ça constitue toujours un cactus dans les relations entre le Mexique et l'Espagne.
Et c'est une question qui dépasse, qui concerne tous les pays du continent, et notamment sur cette déclaration aux peuples autochtones. Ça, c'était lors d'un voyage au Canada, quand il avait demandé pardon pour la manière dont de nombreux chrétiens avaient soutenu ce qu'il avait appelé la mentalité colonisatrice des puissances ayant opprimé les peuples autochtones. Est-ce que ça, c'est une ligne, selon vous, de ce type de propos peut se répéter, se généraliser? Est-ce que c'est une ligne qui est inscrite désormais, définitivement, au sein de l'Église catholique?
C'est effectivement un sujet qui concerne l'ensemble des pays américains, comme je viens de vous le dire, il a été quelque part un peu forcé par l'attitude du Mexique à prendre à bras le corps le problème et à généraliser.
Je vous remercie beaucoup Jean-Jacques Kourlianski d'avoir été en ligne avec nous pour parler donc de ce lien particulier du pape François avec le continent latino-américain. Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine à la Fondation Jean Jaurès. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ces éditions spéciales étaient réalisées par Valentin Blanc. On se retrouve demain, 11h, temps universel. Édition spéciale de nouveau ce soir sur RFI. Et toutes les informations concernant le décès du pape François à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Très bonne journée à tous.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Demain,
entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété pour les jeunes diplômés.
Mercredi,
châtiment corporel à l'école. Pourquoi les pratiques perdurent malgré les lois?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.